Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Fred Weiss, Philippe Saint-André, Denis Charvet, Christophe Cessieux. Nous sommes très heureux d'être avec nous. On a parlé de l'Olympique de Marseille à 9h, de la sortie médiatique de Roberto De Zerbi. N'hésitez pas, c'est déjà disponible en podcast. Alors dans quelques instants, c'est évidemment le grand retour du 15 de France. Aujourd'hui, 4 mois après la tournée noire en Amérique du Sud. Le 15 de France a-t-il le droit à l'erreur? C'est le bras de fer des GG. 10h30, c'était l'une des informations de la semaine. Kylian Mbappé écarté du rassemblement avec l'équipe de France. Est-ce une sanction ou une protection? Didier Deschamps sera dans la punchline. Et puis 10h45, la crise de la soixantaine. Christophe Cessieux ne comprend pas le choix de Fabien Galthié de mettre notamment Mathieu Jalibert sur le banc. Il vous dira tout, évidemment, à partir de 10h45. Mais on débute cette nouvelle heure avec cette citation de Voltaire qui a dit un jour « Aime la vérité, mais pardonne l'erreur ».
RMC, le bras de fer GG.
Victoire de l'Afrique du Sud, 28-29, élimination de la France en quart de finale de sa Coupe du Monde.
Ces dernières heures, une vidéo sur les réseaux sociaux a été diffusée avec Melvin Jaminet pour seul protagoniste. L'international français y tient des propos à caractère raciste.
Oh le Garbici, ce ballon qui part. Ah, ça va passer, c'est poteau. Le poteau. Le poteau, qu'est-ce qu'il fait, le français? Moïfana, il relance. Il va en touche, c'est terminé. C'est terminé. Match nul entre l'Italie et la France.
L'arrestation en Argentine de deux joueurs de l'équipe de France de rugby.
Ils sont tous les deux accusés de viol.
C'est fini. Victoire de l'Irlande, 38-17.
Le 15 de France débute sa tournée d'automne ce soir au Stade de France face au Japon. 3 matchs au total pour se relancer un an, vous l'avez entendu, après la Coupe du Monde ratée et quelques mois après un tournoi à destination mitigé. 3 matchs également pour redorer l'image du rugby français, 4 mois après le fiasco en Argentine. Sur le terrain, en dehors, les rugbymans sont attendus au tournant. Le 15 de France a-t-il le droit à l'erreur? Dans le coin gauche, la team non. Il y a Fred Weiss. Et c'est tout. Dans le coin droit, La team oui. Fred Weiss et c'est tout. Dans le coin gauche, la team non. Philippe Saint-André, Denis Charvet et Christophe Cessieux, les rugbyman, on dira. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC. C'est Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Alors c'est vrai que pour cette tournée d'automne, il est question de sport.
The Voice.
Évidemment. Mais pas que, Wilfried.
Oui, 2 mois après avoir lancé, à l'issue de la fameuse tournée en Argentine, ce que la fédération appelait les états généraux du rugby français, avec des entretiens de tous les acteurs. Et après, une cinquantaine d'entretiens, je cite, tous les acteurs et les actrices ont convenu que des dérives comportementales sur le plan extrasportif imposent aujourd'hui d'agir en urgence. Et le résultat tient en une charte de 26 mesures, comme par exemple interdire au staff, aux joueurs et aux joueuses de l'équipe de France la consommation d'alcool dans certaines circonstances, comme les lieux de performance, comprenez les vestiaires du match ou Marcoussi, interdire au sein des équipes nationales l'ensemble des divertissements basés sur la consommation d'alcool, et on ira jusqu'à mettre en place un protocole de sanction pour ceux qui ne respectent pas les règles définies. Comment les joueurs ont accueilli ça? On a posé la question à l'ailier de l'UBB, Louis Bielbiaré, qui était invité de Bartoli Time dimanche dernier.
Je pense que chaque joueur a envie d'apporter une bonne image au rugby français, donc ça c'est sûr. Et puis voilà, avec le cadre de vie qui a été reprécisé et qui va très bien à tous les joueurs et au staff, je pense que ça va permettre qu'il y ait moins de débordements comme cet été. On est arrivé à un point où l'ancien cadre de vie avait montré certaines limites. Donc, je pense que la fédération a su être assez réactive pour essayer de gommer ces petites imperfections qui avaient eu des grosses conséquences. Donc, je pense que maintenant on est tous bien concentrés sur le rugby et sur les 3 matchs qui arrivent maintenant que le cadre de vie a été mis au clair.
Plus le droit à l'erreur maintenant, surtout pas de frasque. Alors, sur le papier, la prise de conscience est effective, vous l'avez entendu. Exemple aussi avec le capitaine Antoine Dupont qui revient et découvre ces nouvelles règles et pour qui ça ne change pas grand chose si ce n'est plus de clarté.
C'était déjà le cas avant, du moment où on représente l'équipe de France, on sait qu'on a eu une image publique à tenir et des responsabilités, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc en ce sens-là, il n'y aura pas vraiment de changement, il y aura juste plus de clarté dans ce qu'on a le droit de faire et pas faire, et des moments qui seront choisis pour des moments de convivialité ou non. Et du moment que c'est partagé entre le staff et les joueurs, on sait que de toute façon, l'objectif commun, il est d'être le meilleur sur le terrain le week-end qui suit et les échéances qui arriveront en suivant. Donc on a été de suite aligné là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on n'a même pas eu à discuter. Ça s'est fait naturellement. Donc, il n'y aura pas de changement notoire de ce côté-là non plus.
Maintenant, il y a aussi, oui, un enjeu sportif en ce début de saison des Bleus, plus d'un an après la Coupe du Monde en France, dont tout le monde se souvient du résultat. Pour se lancer vers celle en Australie, à la suite d'un tournoi moyen, on va dire, une deuxième chance donc pour cette génération. Antoine Dupont le sait.
Oui, bien sûr. À chaque fois qu'on calcule les échéances, plus ou moyen ou long terme, en rugby, c'est toujours le but ultime, reste la Coupe du Monde. La prochaine est en 2027, donc même si ça paraît loin, je pense qu'on a maintenant aussi l'expérience et la maturité pour se dire que tout ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est dans le but d'être le plus performant dans 3 ans, donc même s'il faut penser à l'objectif du week-end. Mais oui, on sent une nouvelle énergie, évidemment pas mal de nouveaux joueurs aussi qui commencent à nous faire sentir vieux presque, mais tant mieux, ça montre que le vivier français est là, que les jeunes sont performants et méritent leur place dans cette équipe de France.
Et le rugby français justement comptera sur Antoine Dupont pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes le chemin sur et en dehors du terrain.
Merci beaucoup Wilfried, tu restes avec nous pour ce débat. Le 15 de France a-t-il le droit à l'erreur? C'est le bras de fer des GG, oui ou non? Il n'y en a qu'un dans la team, oui, c'est Fred Weiss. 41% pour oui, le 15 de France a le droit à l'erreur, 59% pour non. Fred, t'as du boulot, tu commences.
J'ai du boulot, mais en plus c'est contre des rugbymen, donc c'est pas forcément évident. Mais pour moi, le rugby a une place particulière dans le sport co. On pardonne tout au rugby. Le rugby, c'est quand il se passe quelque chose de grave, il y a toujours quelque chose
demande à Philippe si on lui pardonnait tout il y a quelques années quand il était
sélectionné. Il y a quelques années, je sais pas, mais actuellement.
Ah bah non, mais t'es télé, je te jure.
Et
toujours pas.
Je parle de maintenant. On trouve toujours une excuse au 15 de France. On cherche toujours une excuse. On a cherché l'arbitre, un groupe différent, plus jeune. Donc c'est normal qu'on fasse des bêtises. Pas de Dupont. On doit se remettre de la Coupe du Monde. On trouve toujours une excuse quand il n'y a pas de résultat, parce que avant c'est mal passé et on a mangé un truc qui était pas bon. Mais quand il y a des débordements en dehors, il y a aussi des excuses parce que c'est pas le bon groupe, parce que Dupont n'est pas là, parce qu'il faut protéger. J'ai l'impression que le rugby a cette sorte de totem d'immunité pour tout le monde, aux yeux de tout le monde. Quand on parle du rugby, on parle des valeurs de l'ovalie, de sortir de la troisième mi-temps, et ça ne choque personne. Quand on parle de troisième mi-temps en basket, tout le monde te tombe dessus en disant c'est pas normal.
Ça a pris un peu du plomb dans l'aile toute cette histoire quand même, les troisième mi-temps.
Oui, sauf que quand tu parles encore aux gens dans la rue, tu leur demandes, tu leur poses la question, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé cet été?
Ah bon?
C'est évidemment
choquant. Alors moi, chaque fois qu'on me parle de rugby, on me dit ça va. Alors il paraît qu'ils sont tous alcoolos et qu'ils frappent tous leurs femmes. Demande à Marie Martineau ce qu'elle en pense des rugbyman. Aujourd'hui, l'image des rugbyman a été mise à bas.
Oui,
donc je ne dis pas qu'on leur pardonne tout. C'est plus vrai. Marie vit avec le joueur.
Je pense qu'on a toujours cette solution trouvée, une excuse, un pourquoi, une explication à pourquoi il n'y a pas de performance sportive. Encore une fois, après la Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de l'arbitrage, on a parlé du fait de se remettre de la Coupe du Monde. Rappelez-vous quand même les débuts du tournoi des Six Nations. Hein. On a été catastrophique et tout le monde disait oui, mais c'est normal.
Mais après, tu refais l'histoire. T'es un révisionniste aussi. C'est pas possible. Rappelle-toi de ce qu'on a dit sur l'équipe de France en début de tournoi. Wilfried, voilà, ça y est, c'était terminé. Elle avait avant la Coupe du Monde une image incroyable, une image de sympathie. Tous les joueurs de l'équipe de France étaient des gendres idéaux.
Et puis,
cette défaite. Mais Dupont n'a pas joué avec
Dupont est à part.
Donc, avant cette Coupe du Monde, c'était vraiment les gendres idéaux. Et puis, il y a eu cette Coupe du Monde. On a commencé à taper sur Galtier. Il y a eu ce début de tournoi des Six Nations où là, tout partait à vélo. Et derrière, il y a cette histoire en Argentine aujourd'hui. Eh bien, ils ont des choses à prouver à la population française. Ils ne sont plus en état de sainteté. Donc s'ils veulent vraiment remonter leur image de marque et leur popularité, il leur faut gagner, il leur faut prouver, il leur faut être impeccable. Il ne faut pas qu'on voit des bières dans les vestiaires du 15 de France pendant 3 semaines. Ils ont une image à se refaire, à construire. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'on leur pardonne tout. C'est pas vrai. Demande à Philippe.
Non, mais c'est le regard que tu perdais.
Et on disait que le rugby français était au fond du trou, qu'on n'avait jamais eu une génération aussi pourrave. On les mettait plus bas que terre. Donc arrête de dire ça. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Évidemment.
Vous n'êtes pas d'accord, les copains. Vous allez pouvoir continuer la discussion. Philippe et Denis, vous entrez dans le débat. Denis, pourquoi les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur?
Et moi, je n'ai pas du tout le même regard que Fred. Effectivement, le grand public aujourd'hui s'interroge, ça a été très très choqué par tout ce qui s'est passé, que le rugby a quand même pris un coup sur la figure par rapport à toutes ces histoires. Fred, je suis pas d'accord du tout avec toi.
Oui, mais on l'a expliqué en disant que
non, non, les anciens. On l'a pas expliqué. Et puis tu vois bien qu'il y a encore le procès qui est pas fini. Donc il y a une histoire qui traîne. Il y a eu des drames cet été avec le jeune Nargissi qui s'est tué en Afrique du Sud. C'est épouvantable. Donc non, je suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, il faut redorer ce blason de l'équipe de France. Il faut que effectivement, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Maintenant, il faut qu'on regagne sportivement, mais ça va au-delà. Je crois qu'on était obligé, la fédération était obligée de mettre des codes pour qu'on s'en sorte, pour montrer que ben, le rugbyman, ça a des valeurs, des vraies valeurs, comme tu dis, mais je le pense vraiment. Mais là, en ce moment, on a dévié, quoi.
Mais est-ce que ça passe par le terrain, par le sportif, par le résultat, ou est-ce que ça passe par les ajoutés?
Je viens de le dire, je dis ça passe sportivement par le terrain, mais ça passe aussi par un comportement d'individu exemplaire en dehors du terrain.
Ok, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur sur cette tournée.
Ils n'ont plus le droit à l'erreur.
Ok, Philippe.
Oui, ben ça repasse par d'abord des victoires sur le terrain, de bien jouer. Antoine Dupont le dit, il y a une équipe de nouveau avec les tauliers, Dupont, Ramon, Saldrit, on a de l'expérience, on a de la maturité. Donc on veut le voir sur le terrain, on veut le voir aussi en dehors. Donc cette tournée du mois de novembre, elle est très très importante pour le rugby français, sportivement, mais aussi au niveau de notre image. On doit remettre l'église au milieu du village, on doit être exemplaire sur le terrain et en dehors. Et là-dessus, par contre, où j'ai quand même pas trop d'inquiétude, c'est que les leaders sur le terrain sont aussi des leaders de vestiaire. Et donc, quand tu as Aldrit, Antoine Dupont, capitaine, vice-capitaine, je pense que, en plus, il y a des jeunes joueurs qui rentrent dans ce groupe contre le Japon. Et je pense que cet après-midi, on va prendre du plaisir sur le terrain. Et j'espère qu'il y aura une exemplarité incroyable durant cette tournée du mois de novembre.
Moi, j'ai une question. Quand t'as un Dupont, c'est pas comme si tu faisais Balleneuve aussi? Je trouve que lui, il éclaircit tout ce qui se passe autour de lui. Et dès qu'il arrive, c'est balle neuve. C'est-à-dire qu'en gros, on va un petit peu oublier ce qui s'est passé, même si ça a été catastrophique et je mets pas en doute ça. Mais on va l'oublier un petit peu parce que il y a Antoine Dupont qui arrive, qui blanchit un petit peu tout ce qui touche.
Fred, souviens-toi un sujet où on était d'accord, toi et moi, sur le fait que Antoine Dupont revenait. Antoine Dupont, c'était le boss.
Bien sûr.
Et il reprenait le capitanat.
Je me rappelle.
Et il a une exemplarité incroyable. On parle aussi comment il est revenu physiquement en ayant pratiquement 2 mois de vacances. C'est un mec qui est sérieux, qui fait attention à son hygiène de vie, qui dort, qui s'entraîne. C'est un vrai sportif de haut niveau. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai eu Johnny Wilkinson à Toulon. Johnny Wilkinson, par son exemplarité, m'a changé complètement le vestiaire aussi. Et donc, lui, je peux t'assurer qu'il va pas parler beaucoup, mais quand il parle, eh ben, les mecs,
Les rugbyman, on parle évidemment de l'alcool, des boissons autorisées, non autorisées. Et je lisais dans l'équipe cette semaine que Jean-Marc Lhermé, qui est le numéro 2 de la FFR, que Florian Grill aussi avait dit bon, on n'a pas le droit à l'alcool, mais c'est vrai que si les Japonais venaient avec des bières dans le vestiaire, on en prendrait. On a du mal à cerner un peu le message. Alors on comprend qu'ils veulent laver plus blanc que blanc, mais en même temps ils nous disent si on nous apporte des bières, enfin.
Ils se protègent, c'est normal aujourd'hui. Je veux dire, il y a quand même des drames qui sont passés, qu'aujourd'hui il faut pas redevenir, parce que je pense qu'on n'a jamais été comme ça. En fait, il faut avoir une exemplarité qu'on n'a jamais eue.
On a l'impression qu'ils sont un peu prisonniers de leur charte. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir ce que
ça ressemble à de la communication, encore une fois, cette charte. Je suis désolé, de l'extérieur. Après, pour les rugbymen, vous pensez peut-être que c'est complètement plus ce que je dis. Mais pour nous, extérieur, on dit, c'est un petit peu du pipeau quand même.
Il y aura toujours des moments de convivialité, parce que ça fait partie, c'est l'essence même de notre sport. Mais par contre, par exemple, là, le premier capé, sûrement, à Marcoussis en rentrant, ils vont faire dans une pièce, il y aura une chanson, il y aura un mec qui va boire peut-être une bière cul sec parce que c'est sa première sélection. Mais au lieu que ça soit devant des médias.
Il va boire un verre d'eau cul sec. Ça que ça se passe.
Il y aura des moments de convivialité, mais ils seront maîtrisés.
Ça sera caché.
Ça sera
exactement la même chose.
Comme aux États-Unis où tu mets ta bouteille d'alcool dans un sac en papier pour pas qu'on voit que c'est l'alcool.
Non, mais il y aura plus de beuverie comme il y a pu avoir par le passé, tout simplement.
Pour ça, il faudra aller chez les
bars. Tu penses que culturellement, Franchement, ah ouais, moi, les mecs, tu peux leur dire du jour au lendemain, la beuverie, c'était comme quand on voulait avant. Maintenant, avec cette charte, tout le monde s'arrête.
Ah bah oui.
Tu penses vraiment que ça va se passer
cette
année,
oui, cette saison. Comment tu peux entre deux tests comme ça s'est passé en Argentine, entre deux tests match à 7 jours d'intervalle, quand on, il l'a très bien dit, même Fabien Galthié, il l'a avoué, quand on parle de data, de mètres par seconde, de choses comme ça, de nutrition, se mettre sur le toit jusqu'à 6 heures du matin.
Non mais moi, alors je prêche à converti, mais encore une fois, j'ai l'impression, et je suis désolé Christophe, je vais répéter
mais
exactement,
avec l'actualité, ce n'est plus possible.
J'ai l'impression qu'on pardonne tout au rugbyman.
Ils font parce plus que blanc que blanc, ils en font
et
plus
ça choquait personne.
Pour
Non mais regarde, le capitaine de la tournée en Argentine, il est absent du groupe des 32, donc il y a eu aussi des punitions à l'intérieur du groupe.
Oui, mais il n'a pas été puni, il a été puni sportivement.
Non, sportivement. Et comment tu le sais?
Parce qu'il y a une hiérarchie dans la composition d'équipe qui fait que ben le QI passe second. Donc je pense quand même que moi j'y crois pas trop ce que tu dis Philippe. Mais bon après peut-être aussi, mais là je pense que c'est sportivement qu'il a été puni. Hein,
ok. Il me semble. Tu parlais de Lucu, c'est ça?
Non de. De Baptiste Serin.
Pourtant, qui est un très bon joueur et qui fait une très bonne saison avec le RC Toulon.
Il a été rappelé hein, avec la blessure de Garrigue dans les 42.
Un mot sur le sportif, parce qu'il y a le Japon ce soir. C'est le terrain qui va nous occuper, même si on regardera les à côté. Vous avez raison d'y revenir, mais il y a le Japon, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Argentine. On a parlé de la Nouvelle-Zélande qui a battu l'Irlande hier, donc c'est vrai que ça va être le plus gros test de cette tournée. Est-ce qu'il faut du jeu? Est-ce qu'il faut voir quelque chose? Est-ce qu'il faut retrouver l'équipe d'avant? Est-ce que ça, déjà, vous y croyez?
J'ai envie de dire. Les Japonais, il y a 15 jours, ils en ont pris 60 à domicile contre les All Blacks. Donc, le rugby, il faut respecter l'adversaire, mais on attend aujourd'hui une victoire de la France et on attend une victoire avec beaucoup d'essais. Oui, on attend que la France ce soir mette 40 points aux Japonais, bien sûr.
Alors
après, contre les All Blacks, ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'on en a parlé. Il y aura un match exceptionnel, mais aujourd'hui, c'est une entrée et c'est une entrée où on espère du jeu, du spectacle et un gros.
Et si on avait ma question, c'est si on n'avait pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'excuse de dire, justement, c'est une entrée, on se remet difficilement de cette tournée d'été.
Tu trouves toujours des excuses.
Tu trouves toujours des excuses, on est d'accord.
Même à l'équipe de France de basket, avant la Coupe du Monde, l'année dernière,
on disait que c'était nul.
On disait que c'était nul. C'est rien, c'est une compétition nulle, il y aura les Jeux Olympiques.
Ah non, jamais.
Alors,
c'est des tournées qui sont scandaleux et c'était affreux ce qu'on avait fait.
Non, mais Fred, c'est des tournées qui sont programmées à l'avance.
On
commence par le Japon, c'est très bien, mais il y a une démonstration.
Robespierre du sport, t'es le Robespierre du sport, tu coupes les têtes à tout va.
Et toi, t'es le Robespierre de ta mission, toi.
Peut-être un peu plus.
Quoi?
C'est notre Robespierre, notre émission.
Va t'exprimer déjà.
Les gars, pas de tacle personnel, les copains. C'est une émission de débat. Il y a Olivier qui nous appelle justement pour débattre avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Lycée. Bonjour Christophe.
Bonjour Olivier, pourquoi tu cries?
T'es dans
la voiture. Alors tu cries, très bien. Le 15 de France a-t-il le droit à l'erreur, oui ou non?
Non, c'est fini là. Parce que ça fait 7 ans que Fabien il est là. Son discours, je sais pas quoi, sa mauvaise gestion humaine. Non, maintenant il faut tout gagner. Sinon, il va faire comme
Norès,
3 matchs.
Oui, mais là on parle pas du rugby, on parle d'un sélectionneur ou d'un joueur tout à l'heure avec Philippe Saint-André. Moi je parle du rugby en général. Et c'est là qu'est la différence. Pour moi, ça changera rien sur la vision du rugby.
Non, mais Olivier nous dit, Philippe, là il faut tout gagner. Voilà, ça passe par là. Il faut tout gagner pour remontrer qu'on est grand, qu'on est au-dessus et peut-être que ça fera oublier les à côté.
Avec la bannière.
Disons que on a perdu contre l'Afrique du Sud d'un point en quart de finale de la Coupe du Monde. On rejoue les All Blacks, on les avait gagnés dans le match d'ouverture de la Coupe du Monde. On a une équipe maintenant qui a de l'expérience, on a des jeunes joueurs qui arrivent. Oui, on attend de gagner ces trois tests au mois de novembre, même si ça va être compliqué contre la Nouvelle-Zélande et contre l'Argentine. Je pense qu'on a toutes les qualités pour gagner les trois tests à domicile.
Moi, je pense que si on bat la Nouvelle-Zélande, on pourra retrouver l'état d'esprit qui animait les passionnés de rugby après la victoire au Stade de France il y a 3 ans, c'est ça,
2021.
Rappelez-vous ce soir magique au Stade de France où les Bleus avaient étrié les Blacks, et ce soir-là après cette victoire on s'est dit on peut peut-être enfin gagner la Coupe du Monde.
Ah, on l'a été.
On n'a pas été, mais en tous les cas, ça nous a permis d'espérer pendant des mois. Et on a surfé, le rugby français a surfé sur cette vague après ce succès-là.
Il faut retrouver l'espoir.
Donc il faut retrouver l'espoir, il faut retrouver la gagne contre les Blacks. Ce soir, c'est un apéro, c'est une mise en bouche, mais la semaine prochaine, ce sera du costaud.
Merci. Merci Olivier d'avoir composé le 32-16. Notre sondage s'arrête. Le 15 de France a-t-il le droit à l'erreur? Nous sommes partis à 41% oui, 59% non. Nous sommes désormais à 60% non et 40% oui. Donc, messieurs les rugbyman, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Okay, merci beaucoup Wilfried Templier d'avoir été avec nous. On te retrouve évidemment ce soir, dispositif exceptionnel en direct du Stade de France avec Christophe Cessieux, avec Denis Charvet, avec toi, aux commentaires coup d'envoi, 21h10. Ça va être un grand moment. France-Japon, et on en parle demain dans les grandes gueules du sport. À tout de suite pour la suite des GG, la punchline Didier Deschamps qui explique tant bien que mal les raisons qui l'ont poussé à écarter Kylian Mbappé. Sanction, protection. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin Philippe Saint-André, Fred Weiss, Denis Charvet, Christophe Cessieux. Justement, Christophe Cessieux, dans 10 minutes. Restez bien avec nous, c'est le retour de la crise de la soixantaine. Il ne comprend pas les choix de Fabien Galthié, notamment la non-présence. La non-titularisation de Mathieu Jalibert. Il vous dira pourquoi. Et à vous de me dire si vous êtes d'accord avec lui ou non. Ça, c'est dans 10 minutes. Alors, les absents ont toujours tort, paraît-il. Quand il s'agit de Kylian Mbappé, bah, ça fait surtout beaucoup parler. Jeudi, à la surprise générale, Didier Deschamps a décidé de ne pas convoquer son capitaine pour le dernier rassemblement de l'année. Et à chaque rassemblement depuis la rentrée, bah, c'est un nouveau psychodrame. Résumons un peu l'histoire. Il y en a eu trois. En septembre, Mbappé ne voulait pas venir. Didier Deschamps l'a convaincu. En octobre, Mbappé ne voulait pas venir. Didier Deschamps l'a laissé faire. Et on connaît la suite avec la virée en Suède. En novembre, Mbappé voulait venir, mais Didier Deschamps ne l'a pas pris. Pourquoi ? Attention, c'est l'heure de peser les mots au gramme près. Hein. C'est la punchline des GG, Didier Deschamps.
RMC, la punchline GG.
Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment. Parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, que Kylian voulait venir. Et deux, que ce n'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est un choix qui est ponctuel. Je vous répète, c'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je peux comprendre que ça ne vous suffise pas. Je ne vais pas rentrer dans une argumentation qui amène à des interprétations. J'assume cette décision-là. Donc, l'essentiel, c'est que quand je suis ici, j'ai acté des décisions.
Bon, on va essayer, comme tout le monde depuis 48 heures, de comprendre votre Didier Deschamps.
Décryptons.
Est-ce une sanction ou une protection, Christophe Cessieux? Pas facile, hein?
Je sais pas.
Tu sais pas.
Je sais pas encore.
Tu sais pas encore. Denis Charvet.
Sanction, bien sûr.
Sanction.
Protection.
Protection. Philippe Saint-André.
Sanction, 100%.
Sanction, 100%. Ah ouais. Ok. Bah Denis, je sens que t'es chaud,
tout simplement parce qu'il a, franchi, quoi. Il a marre, il a ras-le-bol. Il a ras-le-bol de son comportement, de son attitude. Et puis, il le dit très clairement. Il dit que ça influe sur son groupe. Et il le dit.
Très clairement, je sais pas si c'est le terme, mais il le dit. Enfin, il le dit. Faut comprendre entre les lignes.
Oui, hein. Entre les lignes. Mais bon, on comprend bien ce qu'il dit. Et c'est pour moi, c'est très très clair. Il a pas besoin d'un garçon qui a des mots dans la tête et qui surtout pose beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Notamment quand il vient au rassemblement et qu'il veut pas faire les conférences de presse, elle a pas parlé. Mais quand même, c'est quelqu'un qui refuse aujourd'hui de parler à la presse. En tant que capitaine de l'équipe de France avec des devoirs de joueurs. Donc ça aussi, ben, il le fait pas. Donc il y a quand même un comportement de joueur au-delà du comportement d'homme qu'il peut avoir en dehors du terrain. Moi je suis très surpris et par le choix de Didier Deschamps et absolument je trouve que c'est courageux de sa part aujourd'hui et que je le suis à 100%. Oui, c'est très courageux. Parce que on s'imagine pas qu'aujourd'hui il sort quand même un des meilleurs joueurs au monde, même si en ce moment il traverse une période difficile de joueur. Mais c'est un choix fort et bravo à lui.
Le regard du manager général. Alors sanction 100%.
Oui, sanction 100%. Pourquoi? Parce que il dit que Mbappé voulait venir. Il dit je l'ai eu au téléphone, il voulait venir. J'ai réfléchi et il n'est pas là. Donc à partir du moment où un joueur et un des meilleurs joueurs au monde, et en plus ton capitaine, veut venir jouer pour l'équipe de France et pour le maillot, et que son entraîneur ne le sélectionne pas, C'est une sanction. Alors, c'est sûrement, il veut une vraie remise en question du joueur, physiquement, techniquement, mentalement, sur sa vie de tous les jours, comme,
c'est
de, pas, comme
c'est
Denis.
Pas,
comme
c'est
Denis
pas le protéger, finalement, quelque part, ça.
Mais non, mais ah, non, protéger, non.
Et sincèrement,
moi, ça m'est arrivé pas souvent dans ma carrière. J'ai souvent été titulaire. Et une fois, Pierre Mermizier m'avait dit non, je te sens pas bien. Je te mets remplaçant. Ah, je l'ai vécu. Ça a été horrible.
Tu l'as vécu comme une sanction, mais c'était peut-être une protection.
Non,
c'est pas
non, c'était une remise en question.
C'est jamais une protection. Jamais.
J'avais eu de la chance. C'était contre l'Argentine, on avait perdu contre l'Argentine. Je lui avais dit, il faut remettre les tauliers.
Qui t'avait remplacé? Qui t'avait remplacé, Jean-là?
C'était Philippe Bernatsal qui a fait après une grande carrière.
À l'aile derrière, oui, c'est, okay, c'est la génération, voilà, d'après. Quoi.
Mais pour toi, t'avais pris ça comme une sanction.
J'ai pris comme une sanction, mais d'un autre côté, sincèrement, je me suis repréparé comme un fou, je me suis affûté, j'ai perdu 4-5 kilos, et sur le tournoi des 5 nations d'après, j'ai été très bon.
Okay.
Donc à partir du moment où tu. En plus, il le dit dans la phrase, il dit. Mbappé, je l'ai eu au téléphone, il voulait venir, j'ai réfléchi, il reste à la maison.
Bah, bon, sanction, moment, il voulait venir,
c'est justement, sanction. Moi, c'est sur cette phrase, ah, oui, que je vais rebondir. Moi, je pense que Deschamps aime Mbappé. Il l'aime foncièrement. Il l'aime parce que c'est son capitaine, il l'a nommé capitaine. Il l'aime parce qu'il sait que sans lui, la France n'est pas le même niveau. Parce que quand il est à fond, quand il est au top, c'est
un... Mais tu peux aimer un joueur et le sanctionner. Tu peux l'aimer et le sanctionner.
Mais ça fait 2 ans qu'il n'est pas au niveau.
Oui, mais justement,
équipe de France.
C'est pour ça qu'il va le protéger. Il veut le protéger pourquoi? Il va le protéger par rapport aux autres. Parce que les autres vont l'attaquer. Parce qu'il n'est pas bien sportivement actuellement. Parce qu'il fait des déclarations absolument nulles en ce moment et qu'il a de l'extra sportif malgré tout, même s'il dit que non. Et ensuite, il va le protéger face à lui-même aussi. Parce que quand il est en équipe de France, il est exposé et il a peur qu'il qu'il fasse des sorties nulles comme il l'a fait. Donc, il préfère le protéger. Et en fait,
ne le choisissant pas,
que Mbappé veut venir, pour moi, c'est un symbole fort de dire il veut venir, donc il est motivé à venir. Moi, je pense qu'il n'est pas prêt et je veux le protéger.
Eh ben, non,
je préfère qu'il reste chez lui par protection pour éviter qu'il fasse des conneries. Parce que vraiment, c'est connerie sur connerie, Mbappé.
Fred,
donc je pense que c'est absolument pour ça qu'il
le fait. Fred, tu as été un sportif de haut niveau.
Oui.
Quand tu es un sportif de haut niveau, tu veux jouer pour ton pays, tu veux représenter l'équipe de France. À partir du moment où tu parles et tu as une discussion avec ton sélectionneur ton sélectionneur te dit reste à la maison, c'est entre guillemets. Remets-toi la tête à l'endroit et reviens.
Mais remets-toi la tête à l'endroit,
donc,
c'est pas bien.
À partir de ce moment-là, c'est une sanction.
Mais non, je te protège,
Fred,
tu fais n'importe quoi.
Fred,
je te protège contre toi-même.
Mais Fred, Christophe est en train de réfléchir.
Mais non, mais Fred,
Deux secondes.
Après, je te laisse, Christophe. T'as oublié quand même l'épisode où il dit en équipe de France qu'il est blessé, qu'il vient en équipe de France, qu'il repart jouer 2 jours après Madrid. Il va où? Il va en Suède. C'est vrai qu'il s'est protégé, lui.
Mais c'est pourquoi.
Tu crois que déjà il est content de
ce voyage en Suède? Il dit j'ai pas envie que ça soit le sujet principal de ça, je le protège justement.
T'as connu la sanction avec Jacques Fourou, ça a été compliqué.
Oui, bien sûr. Mais moi, il m'a jamais protégé.
C'est là où je veux être d'accord avec toi. On n'est pas.
Mais on protège personne en équipe de France. C'est pas vrai.
Bien sûr que si.
Quand
t'as besoin d'un joueur à ce point, tu le protèges.
Vous avez pu donner vos arguments. Christophe a du mal à se positionner. Est-ce que tu vois un petit peu plus clair ou pas?
Déjà, le premier truc qui m'a agacé dans cette histoire, c'est le positionnement du sélectionneur national. Moi, je ne comprends pas, je n'accepte pas qu'un sélectionneur refuse de donner des explications aux journalistes et par leur intermédiaire aux supporters des Bleus qui aujourd'hui sont dans l'expectative, se demandent ce qu'il en est. Et finalement, lorsqu'il dit « je ne veux pas dire pourquoi parce que ça va être sujet à interprétation », mais c'est encore plus sujet.
Il n'a jamais donné d'explication, Deschamps. Ça fait 6 ans qu'il ne donne aucune explication.
Ouais, mais là, sur ce coup-là, je trouve que c'est...
Parce qu'il veut protéger Mbappé, il ne donne pas d'explication.
Ça méritait une explication.
Je suis désolé. Aujourd'hui, il ne répond jamais aux questions.
Non, je suis pas d'accord.
Il fait ce qu'il veut et Gatier fait exactement la même chose en équipe de France de rugby. Et moi, ça m'agace. Ça m'agace ces entraîneurs qui n'apportent aucune réponse et qui nous font tourner en bourrique. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Je pense que quand il dit c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux ainsi. Il considère peut-être que sa venue ne serait pas bonne pour lui, qu'il va être observé, qu'il va être traqué, qu'il va devoir s'expliquer en conférence de presse. Évidemment, quand on est capitaine, eh bien, on est obligé, dans l'obligation, même si lui, de temps en temps, n'y va pas, d'aller en conférence de presse. Si c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas pris, je comprendrais parfaitement finalement ses explications et cela désamorcerait le psychodrame. Mais il n'a pas compris Deschamps qu'en faisant ça, il excite encore un peu plus les journalistes. Depuis 48 heures, on a de cesse de s'interroger au long de, et ça va être le cas de pendant tout le rassemblement. On va de cesse de d'interroger les joueurs, le staff. Et pourquoi Mbappé est pas là et ils vont essayer d'avoir
une explication. Tu vois la goutte de sang là, tu la vois la goutte de sang.
Mais c'est
tu crois qu'on va interroger les joueurs ou le coach? Et dans ce cas-là, c'est lui qui prend la pression. Au lieu d'Mbappé,
le coach
Aujourd'hui Mbappé il exaspère tout le monde. Je suis désolé. Tu me parles des journalistes, il exaspère le grand public, il exaspère tout le monde autour.
Mais justement, ne pas le voir, ça le protège.
C'est pas protégé. Quand t'as un joueur qui te dit « Coach, je veux venir ben », et que le coach ne le prend pas, c'est pas une protection, c'est une sanction.
Une protection contre lui-même.
Et finalement, de dire aux journalistes, il n'aurait pas pu dire. Si c'est une sanction, il ne peut pas le dire.
Il ne peut pas le dire. Ah,
sûr, si c'est une protection, il aurait pu le dire. C'est pour ça que finalement, je pense que c'est une sanction. Imaginez un sélectionneur dire « Il n'est pas là parce qu'il est mauvais en ce moment, que son état d'esprit n'était pas bon lors du dernier rassemblement, et que ça n'a pas plus, et que j'ai peur qu'une procureure suédoise ne le convoque pendant le rassemblement. » Ça, il peut pas le dire, Deschamps, évidemment.
Il peut dire je ne le prends pas pour le protéger parce que il fait que des conneries, je le protège contre lui-même. Comment il peut dire ça?
Il peut tourner autour. Il peut dire voilà, Kylian, vous l'avez vu avec le Real, en ce moment n'est pas dans son assiette. Je préfère qu'il reste et qu'il s'installe dans son club et qu'il revienne pour les moments importants. Là, on sait qui il est. C'est notre joueur phare et laissons
attention, ces mots sont pesés. Ces mots sont pesés.
Il dit rien.
Il dit deux choses.
J'ai deux choses à dire. La première, c'est un désaveu pour moi total par rapport à Mbappé, c'est-à-dire qu'il voulait venir, mais pour moi, ce qu'a dit Philippe, veut tout dire. Pour moi, dans cette
Non, je voulais rebondir rapidement. Juste, est-ce qu'on est vraiment, parce que Deschamps le dit, mais est-ce qu'on est vraiment sûr? Est-ce qu'on est vraiment sûr? Moi, franchement, je suis pas sûr. Parfois, je me pose des questions et c'est là où je rejoins Christophe. À partir du moment où tu donnes pas d'explication, tout est sujet à interprétation. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il avait envie de venir à 100%?
Il dit. Non, Mbappé voulait venir. Oui, je l'ai eu au téléphone. Il voulait venir.
Mais on a vu que les deux derniers rassemblements, Mbappé voulait pas venir. Pourquoi cette fois-ci il voulait venir?
Oui, mais c'est faux. C'est une pleine protection de son.
Oui, mais alors, la réponse, tu l'as à Madrid, la réponse. Ancelotti, il avait bien répondu. Tu vois bien le malaise que ça dégage, quand même. Donc, je veux dire, par là, t'es sûr qu'il voulait venir. Pour moi, c'est sûr. J'ai pas de doute. Après, tu peux émettre un doute, si tu veux.
Tout est sujet à interprétation. Il n'y a que des menteurs, de manière, dans cette histoire-là.
Sanction ou protection, difficile.
Mbappé, quand même.
Il faudrait faire un sondage, là.
Non, mais t'es capitaine de l'équipe de France. Tu peux pas renoncer à l'équipe de France. Tu ne peux pas vouloir envie d'être.
C'est une sanction. Il a la tête au fond du seau, Denis. Il a envie de penser à cette Ligue des Nations. Il a envie d'essayer de retrouver son football, de retrouver le chemin des buts avec le Real. Il vient de signer au Real. Il a déjà la pression de tout le Santiago Bernabéu. En ce moment, l'équipe de France, c'est le cadet de ses soucis. Alors, effectivement, pour les gens du Real, il se dit, ça aurait été bien qu'il aille en équipe de France, ça lui aurait permis d'oublier ses soucis actuels. Mais lui, il est capitaine de l'équipe de France, mais il le retrouvera le brassard s'il retrouve son niveau et s'il retrouve l'envie et s'il retrouve le chemin du bon avec
le Real. On va faire un parallèle entre Dupont et lui d'ailleurs. J'aimerais bien me faire un débat.
Très bien, on en reparlera.
Tu vas comparer les deux, c'est impossible.
Comptez sur nous pour en reparler.
Là, plus blanc que blanc.
Je reprends la main.
Je compte sur toi. Je compte sur toi.
On en reparlera avec Christophe Cessieux.
Pourquoi on ne ferait pas?
T'auras plus le temps pour la crise de soixantaine, dis-moi.
Pourquoi on ne ferait pas toutes les semaines, la minute Mbappé, quoi.
La minute, l'heure Mbappé. Pourquoi la minute, tu l'es fou.
Il est fou. Mais on ouvre toutes les semaines avec Mbappé, comme ça.
Avec grand plaisir. Quand il s'agit d'actualité, nous sommes là au rendez-vous, vous le savez. Toutes les dernières informations, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Rugby, une nouvelle fois, la crise de la soixantaine. Christophe ne comprend pas les choix et le choix de Fabien Galthié de ne pas prendre
Mathieu Jalibert. Quand un sélectionneur et qui je suis pas d'accord.
À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49, de retour dans les grandes gueules du sport. Ce matin, Philippe Saint-André, Fred Weiss, Denis Charvet, Christophe Sessieu, à partir de 11h, direction les Sables d'Olonne pour le Vendée Globe, la 10e édition. Le grand départ, c'est et demain. Nous serons en direct, évidemment, des Sables d'Olonne avec nos envoyés spéciaux, avec notre consultant Franck Hamas. Et cette question, le Vendée Globe tient-il sur le sportif ou les dramas? Et vous allez voir que les GG ne sont pas forcément d'accord. Mais tout de suite, il aura 60 ans le 20 avril prochain.
Arrête de dire.
C'est vrai que je le dis. Ah oui, c'est le 20 avril prochain, 60 ans. C'est l'instant, c'est sûr.
RMC.
C'était vraiment, c'était nul. C'était nul. De tous les points de vue, quoi. Je veux dire, on peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Oui, moi j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol.
Il en a marre. Il en a ras-le-bol. La crise de la soixantaine, c'est tous les samedis avec Christophe Cessieux. Ensuite, ce sera à vous de me dire, après son exposé, oui, s'il a raison ou si c'est la crise de la soixantaine. Christophe, ton sujet du jour.
Il a une gueule de star, un talent dingue. Non, je ne parle pas de Denis Charvet. Wow, ça, c'était il y a longtemps.
Lâche-moi.
Et pourtant, il est le mal-aimé, pour moi, du rugby français. Comme souvent depuis le début de sa carrière, Mathieu Jalibert sera ce soir, à l'heure du coup d'envoi de France-Japon, le cireur en chef du banc des remplaçants des Bleus, alors que son grand rival et choix numéro 1 de Galtier dans le poste de demi-ouverture, Romain Ntamack, est blessé pour toute la tournée. Et moi, eh bien, je trouve ça injuste. Alors, c'est vrai, me direz-vous, que Jalibert a eu maintes occasions de s'installer comme titulaire chez les Bleus et qu'il s'est malheureusement souvent troué. Ça a été le cas lors de la dernière Coupe du Monde, ce quart de finale qui est resté dans toutes les mémoires, ou encore au début du dernier tournoi des Six Nations. Oui, je le concède, Jalibert est un soliste qui a parfois du mal à appliquer à la lettre les consignes du sélectionneur, un garçon qui préfère relancer de son embu plutôt que de plaquer à tout va, c'est vrai. Mais à côté de cela, ce garçon a un tel talent que j'aurais aimé que Galtier lui donne une, voire plusieurs chances supplémentaires, notamment lors de ce premier match face au Japon. D'autant que depuis le début de la saison, le Bordelais marche sur l'eau avec son club de l'UBB, dont il est le maître à jouer, une équipe qui s'est permise il y a quelques semaines d'aller battre le grand Stade Toulousain dans son antre d'Ernest Vallon, avec notamment un très bon Jalibert. Et pourtant, Galtier a donc choisi de lui préférer pour ce France-Japon en numéro 10, le Toulousain Thomas Ramos. Alors, je préfère le dire, avant que les supporters du Stade me tombent dessus, je n'ai rien, mais rien du tout contre Ramos, bien au contraire, je considère qu'il est lui aussi l'un des plus grands talents du rugby français, qu'il se débrouille très bien à l'ouverture, mais que je le préfère à l'arrière. Et ça tombe bien, parce que lui aussi préfère jouer à l'arrière, pour le prouver, écoutez ce qu'il confiait à Wilfried il y a quelques semaines.
Moi aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je suis numéro 15. Enfin, que mon poste est numéro 15, que je prends beaucoup de plaisir à ce poste-là, et que mon objectif a toujours été d'essayer d'être titulaire en numéro 15 en équipe de France. C'est un poste où il y a eu pas mal de changements sur les 5 dernières années, mine de rien, avec peut-être 4 ou 5 joueurs qui y sont passés. J'ai la chance depuis l'année avant la Coupe du Monde de pouvoir être titulaire à ce poste-là, donc bien évidemment que j'ai envie de continuer à l'être. Ouais.
Vous voyez, je vous mens pas, hein. Ramos est un formidable 10, mais il est encore un plus formidable 15. Or, ce n'est pas lui qui occupera le fond du terrain ce soir, mais le Parisien Léo Barré. Alors là aussi, j'ai rien contre l'arrière parisien, qui a très bien rempli son rôle lors des derniers matchs du dernier tournoi, mais oui, mais depuis le début de la saison avec le Stade français, on ne peut pas dire que Barré ait crevé les grands et ébloui les spectateurs de Jambouin. Mais ça, on a l'impression que ça ne compte pas. Pour le sélectionneur, il a son plan en tête, ses joueurs, et se base uniquement sur ce qui s'est passé en équipe nationale, il y a 9 mois, pour composer son équipe. La politique de l'homme en forme, c'est pas son truc. Il préfère mettre un Barré peu convaincant à l'arrière qu'un Jalibert étincelant à l'ouverture. Alors Galtier n'est pas idiot s'il a fait ses choix. C'est parce qu'il considère que le vécu en club de la charnière toulousaine Dupont-Ramos apporte plus de certitude qu'une paire Dupont-Jalibert.
En premier, c'est le talent, c'est le potentiel, c'est le niveau de jeu. Un des facteurs clés de succès, c'est le vécu collectif. Dans l'adaptation et dans la recherche de performance, on ressent sur cette composition de charnière, c'est son niveau. Donc le niveau de ce charnière s'impose naturellement en titulaire et en starter.
Donc, si on l'a bien compris, Jalibert n'a pas le talent de Ramos. C'est pour ça qu'il n'est pas aligné en 10. Le dernier élément expliquant le choix de Galtier aurait peut-être aussi un rapport avec ce qui s'est passé au printemps dernier, lors des phases finales du top 14, ce match entre La Rochelle et l'UBB, qui avait vu Jalibert chambrer copieusement Aldrit, l'un des cadres des Bleus, mais aussi ami intime de longue date du capitaine de l'équipe de France. Voilà donc quelques raisons qui expliquent la rétrogradation de Jalibert au rang de troisième ouvreur français. Un drôle de message quand même envoyé à ce garçon qui, au vu de son début de saison, aurait largement mérité de débuter la partie, mais le talent ne semble pas suffire pour être titulaire chez les Bleus.
Merci Christophe Cessieux pour cette crise de la soixantaine. Alors est-ce qu'il a raison ou c'est les 60 ans qui commencent à tirer un peu dans les guiboles? Denis Charvet.
Bah il a raison, oui, oui parce que.
Attends, il a raison, ok. Oui, Philippe Saint-André.
Je comprends Christophe, mais
Tu comprends Fabien.
Non, mais oui, je vais expliquer pourquoi Fabien a cette démarche.
Ok, voilà. Fred.
Bon, étant donné que c'est un peu pointu, je vais faire confiance à Christophe.
vas-y Philippe.
Non, mais où je comprends Christophe, c'est que depuis le début de saison, il est assez exceptionnel avec Bordeaux, que c'est un joueur qui a un talent fou. Mais dans l'image de Fabien Galthié, c'est plutôt un finisseur pour lui, parce que il préfère des profils de demi d'ouverture qui sont plus gestionnaires, qui sont plus très solides sur le premier plaquage. On sait que pour Fabien Galthié, le titulaire est Ntamack. Et sinon, il préfère Ramos à Jalibert. Et puis, il faut pas oublier que sur le tournoi Destination 2024, qui était un tournoi très difficile au début, Ramos lui a tenu la baraque au poste de demi d'ouverture.
Sur la fin du tournoi.
Sur la fin du tournoi. Et donc, Fabien, je pense que, et il l'a toujours dit, hein, on peut voir depuis, ça fait 5 ans qu'il est sélectionneur, et il utilise plutôt Jalibert en tant que finisseur. En plus, il va le faire rentrer avec Lucu, parce que Lucu joue avec lui à Bordeaux. Mais par contre, dans son jeu, dans le fonctionnement, il préfère un demi d'ouverture qui est plus, on va dire, gestionnaire okay. que talentueux.
Donc, tu comprends les choix de Fabien Galthié. J'aurais fait le même ou pas? Juste oui ou non? T'aurais fait le même ou pas?
Je ne pense pas que j'aurais fait le même. Pourquoi? Parce que Ramos, et il le dit, préfère jouer au poste de 15.
Okay.
Et c'est vrai que Jalibert, sur ce début de saison, il est assez exceptionnel. Et puis, il y a beaucoup de Bordelais dans l'équipe de France, parce que les deux ailiers sont Bordelais. Et Mofana, le premier centre, est aussi du côté de Bègles-Bordeaux.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une logique qui s'imposait en faisant jouer Jalibert avec cette attaque de Bordelaise. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que, effectivement, on va pas reparler du talent de Jalibert, mais en tout cas, c'est un mauvais signal pour lui. Ça sent très mauvais pour lui, parce que Ntamack n'est pas là et il est rétrogradé. Moi, je n'aurais pas pris cette option parce que j'aurais joué la politique de l'homme en forme, ce qui était sa politique avant à Fabien. Et là, il nous prouve que bon, il n'a pas confiance en lui, tout simplement. Il faut dire les choses. La réalité, elle est là. Il n'a pas confiance en lui. Donc, comme le dit Philippe, il est dans une position de finisseur, ce qui est très rétrogradant quant à la qualité de Jalibert, parce que c'est un joueur exceptionnel. Mais voilà, donc il a fait un choix et moi c'est un petit camarade, mais je suis très malheureux pour lui parce que je pense que ça va être très compliqué.
Ok, ça va être très compliqué, c'était très clair. Tu vois Christophe, t'as 59 ans, personne ne dit que c'est la crise de la soixantaine.
Mais non, ils ont le même âge que moi, donc c'est normal.
On va demander à des gens plus jeunes, t'as raison. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Le Vendée Globe, on sera en direct des Sables d'Olonne. Le Vendée Globe tient-il sur le sportif ou les dramas? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.